l'autre bout du monde.
L'autre bout du monde, c'est à Lozère. Tine et Plume vous propose une série d'émissions entièrement consacrées à la 9e édition du festival littéraire Place aux Nouvelles. Des rencontres avec les auteurs, des cartes postales, des lectures, des interviews exclusives. De quoi vous donner envie de lire, de rire, de revenir.
Je voudrais tout d'abord remercier vraiment du fond du cœur en votre nom et le nom de l'organisation de Place aux Nouvelles, des libraires, des bibliothécaires, Madame Ho et Monsieur Lee, d'être venus de Corée vraiment pour vous, car ils sont arrivés en France jeudi soir. Ils ont été au Centre culturel coréen vendredi, et dès hier, ils étaient là. Et cette semaine, ils passent par Aix-en-Provence et ils retournent en Corée. Alors vraiment, ils sont venus, et je veux les remercier du fond du cœur d'être venus, de nous avoir apporté une ouverture sur la littérature coréenne, et d'avoir bien voulu, pendant 2 jours, répondre à nos questions, avec toujours beaucoup d'humour, malgré le décalage horaire, si vous voulez. Donc, ils ont été formidables. Et encore une fois, je voudrais donc de votre part, vraiment, qu'on les remercie tous beaucoup. Bravo!
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour.
Oh, bonjour Plume.
Bonjour Tine.
Aujourd'hui, l'autre bout du monde est en Corée.
Oui, les auditeurs vont être gâtés. Au sommaire de cette émission,
une conférence-débat avec les invités d'honneur coréens animés par Jacques Griffaut. Ensuite, Plume, des interviews, presque des confidences. Littéraires bien sûr, avec Madame Ho Jung-hee et Monsieur Lee Sung-woo. Et enfin, du pur bonheur, ils nous emmènent dans leur univers. Petit moment de lecture.
C'est parti!
Temps fort de cette 9e édition Place aux Nouvelles 2014, une rencontre avec les invités d'honneur, écrivains coréens, Madame Ho Jung-hee et Monsieur Lee Sung-woo. Et je laisse Jacques Griffaut, notre orateur favori, vous présenter les autres intervenants.
Vous avez ici Madame
Tang Eun-jin.
Tang Eun-jin, qui est donc la traductrice. Qui va vous traduire. Vous avez donc Serge Chaffron, l'éditeur, et puis vous avez ici Martine Delors. Martine Delors, avec son mari, anime l'atelier du Gué depuis déjà, je ne sais combien, 25 ans peut-être, plus. Et alors ce sont des éditeurs, on dit des petits éditeurs, mais ce sont des petits éditeurs et qui sont grands par le talent, par l'audace, par la persévérance. Car dites-vous bien qu'ils publient essentiellement des nouvelles. Des nouvelles d'ailleurs de nombreuses contrées, dont le Mexique en particulier. Et il publie aussi une revue trimestrielle qui s'appelle Brève, qui est une revue, une anthologie permanente de la nouvelle. Et à l'occasion de la venue de Madame Ho et de Monsieur Lee, ils ont publié un numéro spécial sur la nouvelle coréenne avec des nouvelles inédites. Donc nous allons parler, si vous le voulez bien, bien évidemment de la nouvelle et de la nouvelle en Corée. Alors peut-être la première question que je vais poser à Madame Ho, c'est de lui demander si le genre littéraire de la nouvelle est très populaire en Corée. Je crois que oui, je crois qu'il l'est, et plus que le roman.
Ah. 전통적으로 단편이 우세를 했는데요.
Oui, en fait, les nouvelles constituent un genre vraiment dominant en Corée encore aujourd'hui. C'est donc une très longue tradition. Il y avait sans doute plusieurs raisons, mais dont une qui est que publier c'était pas évident et donc on empruntait beaucoup. Enfin, on publiait beaucoup dans les revues et dans les journaux.
Monsieur Lee, est-ce que vous-même, vous avez commencé par écrire des nouvelles ou des romans? Et quelle est la différence que vous voyez au point de vue écriture lorsque vous écrivez entre la nouvelle et le roman?
저는 단편도 아니고요. 장편도 아니고.
En fait, moi, j'ai commencé par un genre qui n'est ni une nouvelle ni un roman. C'est un petit peu entre les deux. J'ai cru comprendre avec Monsieur Safran tout à l'heure que c'est ce qu'on appelle en France un petit roman, en fait. Donc c'est avec un petit roman que je fais mes débuts en tant qu'écrivain. Je pense que c'est un genre qui correspond à ma respiration, je dirais. J'ai pas assez de souffle pour écrire un très long roman ou un roman fleuve. Mais c'est vrai, comme a dit Madame Ho tout à l'heure, les nouvelles constituent vraiment un genre dominant en Corée. Même ces derniers temps, j'en ai écrit aussi. Mais c'est vrai que je préfère personnellement un petit roman.
Merci. Je voulais vous signaler tout de même l'existence de deux livres qui sont là, qui présentent ces auteurs. Et ces livres ont été réalisés par l'Institut coréen de traduction littéraire. C'est un peu grâce à eux, d'ailleurs, que nos deux auteurs sont là aujourd'hui. C'est un institut qui a tout de même vocation à aider les éditeurs étrangers et les traducteurs étrangers à traduire du coréen dans d'autres langues. Et je crois que c'est un institut qui a aidé un peu Serge Safran à publier ses auteurs. Serge, sur la nouvelle.
Un peu beaucoup d'ailleurs, puisque c'est cet institut qui a permis, suite à l'invitation à Lozerte de Jacques Griffaud, de faire venir en France donc Lee Woo et Oh Jung-hee. Je vous le dis tout de suite pour que vous sachiez, enfin en coréen, on donne d'abord le nom de famille qui est suivi ensuite du prénom. Enfin, comme nous, chez nous, c'est plutôt administratif, mais chez eux, c'est tout à fait normal. On donne le nom de famille et ensuite le prénom. Bon, ça, il faut le savoir dès le départ. Ensuite, effectivement, cet institut est excessivement dynamique et encourage non seulement la traduction, mais la publication et même la promotion donc des écrivains coréens. Mais j'aurais plusieurs choses à dire par rapport à la distinction entre nouvelles et romans. Il y a un phénomène culturel en Corée qui existait un peu en France, mais qui, hélas, n'existe plus. Beaucoup de jeunes auteurs coréens, enfin d'après ce que j'ai pu comprendre, je parle sous contrôle de Dungeon, produisent leurs premiers écrits dans la presse, dans le journal. Il y a même des journaux, des grands journaux, comme par exemple chez nous, Le Monde ou Le Figaro, par exemple, qui donnent des prix, mais qui sont des prix vraiment qui ont beaucoup d'importance et qui peuvent lancer la carrière d'un jeune auteur. Ensuite, ils font des recueils, évidemment, mais c'est une forme qui, je crois, est quand même vraiment dans leur culture. Alors après, le problème, c'est la longueur. Et tout à l'heure, justement, on était en train de discuter, et le recueil de nouvelles que je viens de publier, Le quartier chinois de Oh Jung-hee. En fait, à la base, la co-traductrice, donc Jung Eun-jin, qui est là, avait demandé une aide pour la traduction de 4 nouvelles. Et finalement, une des nouvelles, qui était un peu plus longue que les autres, apparu de façon autonome chez un autre éditeur et est resté ces 3 autres nouvelles qui ont d'ailleurs des points communs, mais bon. Et du coup, finalement, j'ai eu la proposition de lire ces 3 nouvelles. J'ai trouvé qu'elles formaient un ensemble très harmonieux, qu'on pouvait le publier ainsi. Pour cette histoire de longueur, on en parlait tout à l'heure avec Martine, puisque il est où ce numéro? Voilà, vous l'avez là, ce numéro-là qui a été pensé justement dans la perspective de Lozerte avec quelqu'un qui a réuni des nouvelles. Alors, vous avez au sommaire une nouvelle inédite de Oh Jung-hee et une nouvelle inédite, évidemment, de Lee Sung-woo, plus d'autres nouvelles. Alors, Martine meurt d'envie de parler, je vais lui laisser la parole.
Oui, parce que au départ, nous, on avait 7 nouvelles, 7 écrivains que Jean-Noël Jouté, qui a fait les traductions, donc dans le même contexte, avec l'aide de l'Institut de traduction. Et évidemment, dans un bref, c'est très difficile de faire rentrer 7 nouvelles coréennes, parce qu'en effet, comme l'a dit Serge, elles sont beaucoup plus longue que les nouvelles françaises. Mais quand même, on y est arrivé. Et notamment, Madame Oh Jung-hee, qui est ici, nous a donné la première nouvelle du recueil, qui s'appelle Bénévolat, et qui est une magnifique nouvelle en 8 pages. Donc, elle a fait dans ton recueil 3 nouvelles longues, mais elle sait aussi faire des nouvelles courtes, magnifiques d'ailleurs.
Oui, alors, et ça rejoint aussi quelque chose qui est important de savoir, c'est que dans l'évolution de l'édition de la littérature française, enfin en tout cas de sa publication, très souvent est maintenant appelé roman, ce qui pourrait être qualifié de longue nouvelle ou, pour employer un terme à la mode, une novella qu'on a utilisé récemment pour 3 textes assez longs de Le Clésio.
On revient tout de suite à la Corée et j'aimerais demander à Madame Ho, dans ses nouvelles, un peu quelles sont un peu ses sources d'inspiration. Est-ce que Est-ce que ce sont des choses autobiographiques? Est-ce que ce sont des choses vécues? Est-ce que ce sont des faits de la vie quotidienne? Ou est-ce que c'est de l'imaginaire? Et je poserai ensuite la même question à Monsieur Lee. Madame.
Que 작품을 모두가 다 저의 얘기라고는 할 수 없지만 그 작가들의 많은 작품들은 어떤 주인공을 내세워서 어떤 인물을 내세우고 어떤 사건을 얘기하고 상황을 이야기하고
Je peux pas dire que tout ce que j'écris est autobiographique, mais je pense que quels que soient les personnages qu'on met en scène, quels que soient les événements qu'on raconte, de toute façon, je pense que tout roman est plus ou moins autobiographique. Par exemple, ce que je ressens, ce que je pense, sort en fait de moi, mais à travers ma conscience, mon corps, ma sensibilité. Et en ce qui me concerne, je pense que les hommes écrivains vivent aussi des choses similaires, mais c'est surtout les femmes. En ce qui me concerne, en tout cas, en tant qu'écrivaine, en fait, il y a une incompatibilité entre ma vie de femme normale et la vie d'auteur, en fait. Je pense que l'espace de la vie quotidienne n'est pas le même que l'espace d'un écrivain, en fait. Et c'est pas toujours facile. Donc, j'essaie de vivre avec toujours les antennes dressées vers le monde, mais aussi vers moi-même, en fait, pour capter des choses qu'ensuite je traduis par la littérature.
Monsieur, même question.
아, 참, 오정희 선생님 말씀하신 거, 그냥 거기에다가, 저도 그래요. 이렇게.
j'ai envie de dire, il en va de même pour moi. Mais bon, je sais que je vais pas m'en sortir comme ça, donc je vais acheter quelque chose. Une œuvre, je pense que l'auteur met vraiment toute sa vie, tout ce qu'il a vécu dans une œuvre. Je suis plutôt du genre de souffrir de manque d'inspiration et bon, vous savez, les inspirations ne tombent pas du ciel. Il faudrait les chercher et pour ça, j'utilise une méthode classique qui est de prendre des notes. Donc, je vais dire que, effectivement, mes inspirations viennent de mon carnet, en fait. Mais pour être tout à fait honnête, il y a aussi le fait qu'on me commente un texte. Et là, à partir de là, je commence à chercher vraiment une inspiration.
Madame Ho, je reviens vers vous parce que vous avez mentionné effectivement qu'une source d'inspiration, c'était l'autobiographie. Je crois que il y a une toile de fond dans toutes vos nouvelles et dans beaucoup de votre œuvre aussi romanesque, qui est tout de même la guerre, hein, je crois.
Ah, 저는 그 1950년도에 한국 전쟁이 났는데요. 1947년에 태어났습니다. 그러니까 제가
Donc la guerre de Corée a éclaté donc en 1950 et je suis née en 1947, donc j'avais 2 ans et 6 mois quand la guerre a éclaté. Quand on me demande d'où vient ma littérature, j'évoque souvent 3 souvenirs qui sont mes 3 premiers souvenirs. Le premier est une chambre obscure avec ma mère qui accouchait en fait et qui souffrait énormément. La peur de voir ma mère mourir en accouchant. Le deuxième souvenir concernait un énorme chien noir et qu'on avait suspendu pour le tuer. Et le troisième souvenir concernait une très grande grotte où il y avait les gens étaient réunis et quelqu'un, enfin une grosse main un peu collante est venue m'obturer la bouche. Et c'était vraiment mes 3 premiers souvenirs. Et par la suite, j'ai appris qu'effectivement, que c'était ma mère qui a couché et que c'était aussi, en ce qui concerne les chiens, c'était avec les bombardements, les gens du village avaient peur que les chiens deviennent fous. Donc, ils avaient décidé, dans commun accord, donc, de les tuer tous. En l'occurrence, il s'agissait de mon chien, en fait, que j'aimais énormément. Et voilà, donc tout cela et le troisième souvenir était effectivement, c'était l'endroit où on était réfugiés. Donc ce souvenir de peur, de souvenir très désagréable, etc., je pense que tout cela a influencé ma littérature et aussi le fait qu'après la guerre, on a quand même vécu dans la pauvreté, sans protection, sans amour, tous ces souvenirs de malheur, en fait, ont quand même même influencé mes écrits par la suite. Donc, cela dit, quand je dis que mes écrits sont autobiographiques, il faut nuancer parce que c'est vrai que je parle souvent à la première personne. Par exemple, dans une des nouvelles de ce recueil, donc, qui s'intitule La cour de l'enfance, c'est une histoire de famille, un membre de famille qui sont dispersés à cause de la guerre. Chacun vit la guerre d'une manière différente. Et par exemple, la mère, bon, l'absence du père, la mère commence à travailler dans une gargote et elle, plus ou moins, on devine qu'elle se prostitue ou quelque chose comme ça. Et les gens ont cru que tout était vraiment venait de mon vécu et à tel point que ma mère a fini par protester en disant vraiment tu salis l'honneur de ta famille, quand même le ciel connaît, le ciel le sait, la terre le sait, j'ai jamais été une fille de bar pour ni prostituée, vraiment c'est inadmissible. Mais je pense que c'est les gens commettent souvent ils ont souvent ce malentendu en fait de confondre la vie de l'auteur et l'œuvre.
L'Atelier du Guet est une structure artisanale d'édition indépendante créée en 1975. Il est également l'éditeur de la revue Brève, qui reste une référence dans le domaine de la nouvelle. Martine Delors, fondatrice, nous parle de sa découverte et de son intérêt pour la nouvelle coréenne.
Bon, moi c'est un peu particulier puisque c'est un travail de revuiste, donc sept écrivains d'un coup, une seule nouvelle pour chaque écrivain. Donc c'est un petit peu différent de quand on rentre dans un manuscrit de plusieurs textes d'un même écrivain. Qu'est-ce qui nous a séduit ? Ce qui nous a séduit, c'est la diversité de ces nouvelles, parce qu'on connaissait d'abord. Ce qui nous a séduit, c'est de découvrir une littérature. Je crois que c'est l'intérêt des revues, c'est la découverte. Hein. Et Brève se définit comme un espace de liberté, un espace de découverte. Donc voilà, c'est de rentrer de plein pied avec sept écrivains différents. Alors, je ne vais pas m'éterniser, parlons des deux qui sont là. Pour Madame Oh Young-hee, moi j'ai beaucoup aimé ce texte qui s'appelle donc Bénévolat, parce que c'est un texte très contemporain. C'est un texte qui touche à l'enfance. On a dit que son œuvre tournait autour de la guerre, mais je crois que son œuvre tourne aussi beaucoup autour de l'enfance. Et si on faisait un débat très long, j'aimerais l'interroger là-dessus, sur le rôle de l'enfance dans des enfants en Corée. Parce que son texte est assez intéressant, est assez particulier. C'est un texte qui pourrait avoir été écrit par un écrivain français, d'une certaine façon, mais d'un autre côté, qui ne peut absolument pas avoir été écrit par un écrivain français. Donc, elle pourrait nous dire peut-être qu'est-ce qu'il y a de typiquement coréen dans cette histoire-là. Donc, c'est un texte court et très dynamique, très très contemporain, puisqu'il se passe, je pense qu'il se passe aujourd'hui, vraiment. Pour Monsieur Lee Sung-hu, c'est une nouvelle plus complexe. Pour l'expliquer, j'ai eu besoin de l'argumentaire de mon camarade Serge Safran, qui dit que cet écrivain est obsédé par la quête d'une vérité toujours fuyante. Et j'ai trouvé que c'était d'ailleurs une assez bonne définition de la nouvelle en général. Du travail du nouvelliste en général, la recherche d'une vérité toujours fuyante, et particulièrement de cette nouvelle, puisque c'est une histoire bizarre qui se passe dans une maison, mais on est une maison. Bon, d'abord, cette nouvelle, elle est belle par son écriture. Donc, c'est quand même ce qu'on cherche d'abord quand on publie des nouvelles. Hein, c'est le style, c'est l'écriture. Elle est vraiment très belle. Mais en même temps, elle est profondément humaine et profondément émouvante par les relations entre le narrateur et sa sœur, par une histoire un petit peu ésotérique, un peu voilà. C'est un personnage qui, dans une maison, pense que quelqu'un d'autre habite la maison. Et toute l'histoire va se dérouler autour de cette interrogation, de ce voilà. À la frontière du fantastique et après, à la fin, avec une arrivée tout à fait inattendue, très très matérialiste. C'est peut-être un petit peu la Corée, ce mélange des genres. Voilà.
Monsieur Lee, on a parlé un peu de fantastique. Je crois que vous avez mentionné le mot fantastique. On a mentionné aussi à votre égard, je crois, le mot un peu rocambolesque. Il y a de l'humour et autres. Il y a aussi un peu de tragique dans vos nouvelles. Est-ce que vous reconnaissez ces qualificatifs que je viens d'énoncer ou y en a-t-il d'autres aussi? Je veux absolument vous faire parler. Hein. Vous n'allez pas y couper.
Je pense que 제가 제 문장이나 제 소설이 굉장히 유머와 재치가 넘친다고 생각해요. 근데 한국 독자들
Je me considère personnellement comme un écrivain plein d'humour et plein d'esprit.
저는 제 소설이
Mais les lecteurs coréens ne sont pas tous d'accord. Et je trouve que je parle des choses quotidiennes intéressantes, mais en Corée, on me dit que je suis un écrivain abstrait, trop sérieux. Mais ils reconnaissent quand même que j'ai souvent recours à la, au fantastique ou à l'allégorie ou des choses comme ça. Bon, bref, donc le plaisir du texte n'est pas le même et varie en fonction des gens. Donc certains, des gens qui me ressemblent un petit peu, vont trouver que mes romans sont effectivement amusants, mais d'autres qui n'ont pas le même code que moi, peut-être que vont trouver ennuyeux, ils vont être déçus par mes nouvelles.
Bien, alors maintenant qu'on a une idée un peu de la toile de fond, de ces nouvelles, des sources d'inspiration, je voudrais demander à Serge Safran ce qui l'a séduit, lui, et ce qui l'a incité tout de même, parce que quand on est éditeur, on prend toujours un pari, ce qui l'a incité à prendre le pari, à publier donc ces nouvelles, en particulier celle de M. Lee il y a maintenant un an, un peu plus d'un an, et celles maintenant récemment, puisqu'elles sont, elles viennent de sortir, je dirais presque pour Lozerte, le quartier chinois de Madame Ho.
Mais, les relations avec Yisson Hou sont très lointaines, puisque j'ai publié plusieurs romans de lui aux éditions Zulma. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une longue histoire. Il rappelait hier que ça l'a fait 14 ans. Donc, vous voyez, il y a quand même une continuité. Ce que je voulais dire par rapport, enfin, ce qui m'a séduit, ce qui me séduit chez lui, c'est qu'il y a, il fait partie d'une génération. Enfin, il faut savoir que, en Corée, dans la littérature, il y a eu une énorme littérature, et on peut le comprendre, marquée par la guerre. Alors, d'abord par l'invasion japonaise, qui a quand même, qui a duré 50 ans, puis la guerre de Corée, puis la dictature. Enfin, ils ont eu de la matière. Donc, si vous voulez, il y a une énorme littérature, et notamment que représentait, par exemple, Han Sokyeon, dont j'ai publié plusieurs romans et beaucoup de nouvelles. Il est quand même d'une autre génération. Il a, comment dirais-je, cette notion de la guerre est quand même loin. Il est vraiment un écrivain contemporain qui pourrait être, bon, même si ce qu'il raconte se passe en Corée, nous concerne à nous, comme par exemple on l'a souvent comparé à Kafka et à juste titre, il y a cette dimension quand même très contemporaine. Tout à l'heure on parlait de la guerre dans les nouvelles de Ojungi, c'est vraiment la guerre, mais en toile de fond par les conséquences de la guerre. C'est-à-dire, bon, s'il y a un homme qui est à la guerre, que devient la femme avec sa famille, etc. Mais si vous voulez, c'est vraiment une toile de fond, c'est déjà peu... Alors, ces nouvelles-là, ben vous savez, c'est le problème de l'évolution éditoriale. Elles datent de déjà quelques années. Le temps qu'elles soient traduites, qu'elles soient publiées, il y a un petit décalage dans le temps. Moins avec Yisson Hou, puisque, en fait, là, maintenant, on est à peu près en accord, le vieux journal. Je ne sais pas, de quand date le vieux journal en Corée? 2008, vous voyez, bon, il est sorti en... à l'octobre dernier, donc il y a quand même un léger décalage. Donc en fait, moi, ce qui me séduit beaucoup dans son univers, c'est ce qu'évoquait Martine tout à l'heure. D'ailleurs, la nouvelle qui est dans le recueil de brèves est très représentative. Il y a une nouvelle à peu près de la même thématique dans le vieux journal. Il ne donne pas la solution, le lecteur la devine, il donne des pistes, et c'est un univers très étrange, et il ne verse pas dans le fantastique, mais bon, quand il nous donne des solutions, et puis c'est à nous, lecteurs, il nous raconte une histoire, vraiment une histoire avec des personnages, et puis bon, il ne donne pas la solution, c'est à nous, en fonction des éléments qu'il donne, donc il nous fait rêver, il nous fait réfléchir, et c'est quand même formidable dans la littérature. Les nouvelles de Ojungi sont plus des nouvelles d'atmosphère et qui sont très, très liées à l'enfance. Et ce qu'il y a qui m'a beaucoup séduit pour répondre à la question, dans le quartier chinois, c'est vraiment très difficile pour un écrivain, je le sais par expérience, pour avoir lu des textes d'écrivains qui ont essayé, c'est de voir la réalité à travers les yeux d'un enfant. Et alors, en l'occurrence, une petite fille, et c'est vraiment très intéressant, les trois nouvelles, ce sont trois enfants, les personnages principaux, et qui donnent leur vision de la réalité à travers leur regard d'enfant. Et donc, nous, comme on est adultes en lisant, on voit bien ce que l'enfant veut dire ou ce qu'il voit, mais qu'il ne comprend pas. Et donc, ça crée un décalage et qui donne une puissance assez extraordinaire à ces textes. Voilà.
Je trouve que les traducteurs font toujours un travail absolument extraordinaire qui nous permet d'avoir une ouverture sur des littératures qui seraient sinon... qu'on ne pourrait pas approcher, si vous voulez. Et ces gens-là travaillent beaucoup dans l'ombre, alors qu'en fait, le texte que vous lisez, eh bien, c'est un texte que eux ont écrit. Bien sûr, ils l'ont écrit d'après un texte original, mais c'est tout de même un texte que eux ont écrit. Et c'est un travail qui est, on peut le dire, tout de même relativement mal rémunéré, si vous voulez. Et vraiment, c'est un, je dis, bravo aux traducteurs et merci. Et heureusement qu'ils sont là, car sinon, eh bien, on serait un peu resserré sur nous-mêmes. Alors, justement, madame, pour vous. Vous avez traduit Madame Ho, hein, vous n'avez pas traduit Monsieur Lee encore. Vous avez lu les livres de Monsieur Lee. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que ce serait un exercice complètement différent de traduire les livres de Monsieur Lee par rapport à ceux de Madame Ho? Et si oui, pourquoi?
Ce qui rend la traduction de l'œuvre de Ho Jung-hee absolument difficile et passionnant, c'est vraiment les images qu'elle met dans son œuvre, c'est à la fois très, très subtil et très beau, en fait. C'est toujours... Parce que c'est une écriture extrêmement rigoureuse, en fait. Elle dit souvent, d'ailleurs, que vraiment, elle choisit chaque mot, essaie de trouver toujours le mot le plus juste. C'est pour ça que, quand je traduis, je suis un peu terrorisée par cette... j'ai toujours peur de trahir ce qu'elle écrit, mais aussi c'est vrai que c'est tellement beau, j'ai envie de rendre cette image aussi en français, et c'est pas toujours facile. J'ai jamais traduit Monsieur Isungu, mais je pense que ça posera pas les mêmes problèmes, en fait, certainement pas, en fait. Il a un style qui est bien particulier à lui et qui est peut-être pas très facile à rendre aussi en français. Par exemple, entre autres, en fait, c'est pas un problème qui est réservé en fait à l'œuvre de Isungu, mais c'est finalement un problème assez fréquent chez les écrivains coréens, mais chez lui d'une manière assez particulière et intéressante, c'est-à-dire le problème de répétition voulue là. De manière générale, les écrivains coréens répètent beaucoup. En fait, il y a que la langue française, malheureusement, est la langue qui vraiment déteste la répétition. Les autres langues, ça va déjà un peu mieux, mais alors le coréen, il n'y a aucun problème de répéter. Donc, vous voyez la difficulté qu'on éprouve en traduisant. Mais en plus, chez Isungu, par exemple, c'est une figure de style. Et c'est extrêmement agréable à lire en coréen. Et c'est vrai, c'est souvent aussi une source de l'humour. Et je pense que ça va être assez difficile à rendre en français, par exemple.
Des remarques, des questions sur la traduction, sur l'édition de livres, sur l'édition de revues, encore? Vous allez continuer? Bref, continue. C'est pas une brève histoire. Hein? Encore quelques numéros, oui. Alors, comment faites-vous pour vous renouveler un peu à chaque numéro? Parce que vous dites que vous êtes une anthologie permanente de la nouvelle. Comment est-ce que vous trouvez vos auteurs? Est-ce que c'est eux qui vous envoient directement des textes? Ou est-ce que c'est vous qui sollicitez? Ou comment est-ce que ça se passe?
C'est vrai qu'on a la chance de recevoir de la part des auteurs la plupart des textes qu'on publie, de n'avoir pas à les demander. C'est toujours un peu difficile de demander des textes, parce que si on ne les trouve pas bons... On ne sait pas qu'en faire. Il faut être très, très diplomate, alors, et on ne l'est pas toujours beaucoup. On en reçoit beaucoup, et vous savez, ici, quand je regarde le public, j'en vois quand même pas mal qui ont été ou qui vont être publiés dans Brève. Donc, on reçoit 3 ou 4 manuscrits tous les jours ouvrables. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de choix. Et on n'est peut-être pas trop mauvais, on choisit des pas trop mauvais textes, puisque Brève a dépassé les 30 ans. Donc voilà. Autrement, quelle était la question? Si on va durer encore quelques temps, mais justement, la réponse est un petit peu dans la phrase précédente, ayant déjà 30 ans, un jour ou l'autre, l'aventure s'arrêtera, c'est évident. Pas encore tout à fait cette année, on va dire.
Et encore une fois, bravo, parce que c'est courageux. Vous pouvez nous donner une idée de à combien d'exemplaires vous tirez cette revue ?
Le tirage, c'est très facile. Les ventes, c'est plus difficile. Le tirage, bref, a oscillé entre 1000 et 2005, selon les numéros. Actuellement, on est plutôt à 1000 parce que les ventes sont vraiment à ras des pâquerettes, quoi. Un peu partout. Alors, on a des abonnés, on a des bibliothèques qui sont abonnés fidèles, mais enfin, quand même, depuis quelques années, on voit même les bibliothèques se désabonner. Et l'abonnement, ça, c'est une surprise et peut-être une des conséquences d'Internet. C'est que on a changé nos habitudes d'achat, d'acquisition des objets à travers Internet. C'est-à-dire, on veut tout gratuitement et tout de suite. Soit avec la carte bancaire, on se rend même plus compte que la carte bancaire, c'est de l'argent. Bon, et donc, l'abonnement est un système d'achat qui est en train de disparaître. Et pour les revues, c'est tragique. C'est vrai qu'avant, l'abonnement, c'était par exemple les gens qui habitaient Lozère. Il n'y a pas de bibliothèque, enfin pas de librairie, bibliothèque sûrement, mais si librairie peut-être pas. Voilà, mais librairie. Donc les gens s'abonnaient pour avoir les nouveautés. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et ça, c'est inquiétant pour la création.
Mais donc, à côté de cette revue brève, vous publiez aussi ? Vous publiez des livres, essentiellement donc des. Vous publiez quelques romans, mais aussi essentiellement des recueils de nouvelles. Et combien à peu près en publiez-vous par an ?
Actuellement, si on arrive à faire un ou deux livres par an, c'est le tout. Mais je vais quand même faire une seconde de pub sur le dernier recueil qui s'appelle L'OTAN des nouvellistes. On a quelques écrivains qui sont par là, qui ont participé. C'est 17 nouvellistes qui ont comme point commun de vivre dans la région toulousaine. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nouvellistes sur Toulouse, qui vivaient à Toulouse. Et on leur a demandé des textes et on a eu la surprise très agréable d'avoir 17 textes sur lesquels on a quasiment eu rien à dire. Ils étaient tous bons. Et voilà.
Je précise, parce que vous l'avez peut-être mal compris, que le titre c'est L'OTAN des nouvellistes, l'OTAN comme le vent d'OTAN.
On peut signaler parmi les habitués de Lozère, Emmanuel Urien, Manucos, qui n'écoute pas mais n'écoute jamais, mais ça fait rien, ils sont là. Il y avait Michel Baglinge, Frédéric Martin, voilà, j'oublie sûrement quelqu'un. Mais...
Alors, l'atelier du Guet, vous êtes situé dans l'Aude, hein, et un peu à Toulouse aussi, très bien. Alors que Serge Safran, lui, est parisien, oui. Ta maison d'abord existe depuis quoi, 5 ans, 6 ans, 3 ans?
Oui, bah, écoutez, Serge Safran, éditeur sous cette appellation à 3 ans, en tant que directeur littéraire, cofondateur de Zulma, j'ai dû publier plus de 450 livres, donc dont des nouvelles, dont des auteurs étrangers, dont Ils sont où, qui est ici, puisqu'il rappelait que ça fait 14 ans qu'on se connaît. Et là, actuellement, comme je suis vraiment une petite structure, je publie 8 livres dans l'année, ce qui est vraiment pour moi beaucoup. J'ai sorti alors dans cette rentrée 4 titres, donc le double de l'année dernière, mais pour des raisons particulières. C'est en fait, j'en avais rajouté un, et dans les 3 de la rentrée, il y a un premier roman. J'essaie de faire découvrir des nouvelles plumes, des nouveaux talents. Un roman d'un auteur confirmé qui est ici présente, Isabelle Minière, dont j'ai reçu le manuscrit par la poste. On s'est croisé à Lozère, mais on s'est à peine parlé. Donc je savais qui elle était, mais je l'avais jamais lu. Et j'ai découvert son manuscrit grâce en partie à Lozère, et qui sort là, qui est en librairie depuis la fin août, qui fait partie des romans de la rentrée, et qui est sur les tables là, et qui s'appelle « Je suis très sensible ». Et le recueil de Oh Jung-gig, que j'avais prévu pour octobre, je l'ai, pour des raisons économiques, je l'ai avancé en début septembre pour qu'évidemment le livre soit présent à Lozère. Voilà. Donc en fait, du coup, j'ai 4 titres dans cette rentrée, j'en ai encore un en octobre, et après, le problème, c'est que dans l'édition, on est toujours en décalage horaire, et je suis en train de préparer le semestre de l'année prochaine. Et, enfin voilà, on est toujours comme ça en décalage, mais finalement on s'y retrouve un petit peu. Et puis, voilà.
Donc voilà un éditeur qui lit les manuscrits qu'il reçoit par la poste, hein, c'est déjà important à savoir, qui publie aussi des manuscrits qu'il a reçus par la poste à partir du moment où il juge qu'ils sont de qualité, et qui n'hésite pas à prendre tout de même certains paris et certains risques comme... comme je crois c'est un peu son métier, en publiant des auteurs à faire découvrir et non pas seulement des auteurs, je dirais, un peu consacrés. Quoi.
On peut rappeler que le premier titre de Serge Safran est éditeur, c'était un recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelles Vénitiennes et qui a eu le prix de Lozerte, alors je ne sais plus l'année, mais il y a deux ans, voilà. C'était un jeune auteur d'une cinquantaine d'années, c'était son premier livre de fiction, un recueil de nouvelles, et qui a d'ailleurs assez bien marché, qui a proposé ensuite un premier roman unique qui est apparu et qui est en train d'écrire son deuxième roman. Voilà, finalement, c'est assez amusant de commencer une structure éditoriale avec un recueil de nouvelles.
C'est Dominique Paravel, pour ne pas la nommer, était invitée cette année, mais pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu venir. Elle m'a promis qu'elle viendrait l'année prochaine. Je voudrais vraiment remercier profondément Madame Ho et Monsieur Lee d'être venus de Corée pour nous rencontrer. Ils sont en plein décalage horaire, ils sont arrivés jeudi, hier soir ils étaient au centre culturel coréen et ils vont repartir la semaine prochaine. Donc vraiment c'est pour Lozerte qu'ils sont venus, ce sont deux grands auteurs coréens et encore une fois merci à tous les deux. On est très sensibles, très fiers et très honorés de votre présence.
Nous voici, place des Cornières, à la table de Madame Oh Jung-hee. Bonjour, vous avez dit qu'il y avait pour vous une incompatibilité entre votre vie de femme et votre vie d'auteur. Quel est l'espace dont vous avez besoin en tant qu'auteur ?
Même un écrivain est obligé de vivre le quotidien. Il y a des choses qu'on peut pas. Il y a une relation qu'on peut pas rompre avec le monde. Et donc il y a un espace pour la vie. Il y a des choses de la vie. On est obligé de vivre avec. Et je pense que si on est trop éloigné du quotidien, on ne peut pas écrire un bon roman d'ailleurs, parce que le roman finalement raconte, ou le roman ou les nouvelles en tout cas, raconte des relations entre les hommes, la vie, les relations avec la vie, etc. Mais comme je suis écrivain, enfin, j'ai quand même besoin de mon espace intérieur. Mais je pense que l'intérieur et l'extérieur, il y a une circulation entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a sans arrêt des allers-retours. En fait, c'est ce qui fait finalement un peu la littérature, et que chaque écrivain, me semble-t-il, doit avoir aussi une vérité pour laquelle, en fait, il fait une recherche. Et il faut croire à cela. Il faut avoir cette conviction qu'il est à la recherche d'une vérité.
Vous nous avez dit dans vos récits, vous nous offrez la possibilité de voir la réalité à travers des yeux d'enfant. En quoi donner la parole à l'enfant vous permet d'exprimer ce qu'un adulte ne pourrait dire ?
Le regard d'un enfant est forcément très limité parce qu'il n'a pas autant d'expérience que d'adulte. En même temps, l'adulte a ses préjugés, et il y a un regard, en fait, auquel on est habitué. Il y a des choses qu'on considère comme naturelles. Et donc, je pense qu'à travers le regard d'un enfant, je voudrais découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Un de mes désirs, c'est justement de voir le monde à travers le regard d'un bébé qui vient de naître. Je me mets à sa place. C'est vrai, combien ce monde doit être étranger et étrange et choquant aux yeux de ce bébé.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a inspiré l'écriture de votre dernier recueil publié chez Serge Safran Éditeur, Quartier Chinois ?
Pour me limiter à la nouvelle intitulée Le Quartier Chinois, la nouvelle donc a comme décor la ville de Incheon où j'ai vécu 4 ou 5 ans, c'était à peu près de l'âge de 9 ans et jusqu'à l'âge de 14 ans, et surtout le quartier chinois de cette ville de Incheon. Donc il y a beaucoup de choses qui sont imaginées dans cette nouvelle, mais il y a aussi beaucoup de mon vécu. Ça concerne la période où l'enfant ouvre ses yeux sur la vie et aussi sur le sexe, en fait. Donc c'est un âge où on n'est plus tellement enfant, mais on n'est pas encore adulte. C'est le passage de l'enfance à l'adolescence, donc c'est une période très complexe et pleine de confusion. Donc, ce qui amène l'enfant, en fait, à aussi sortir un peu des règles, des lois, parce que l'enfant ment, il vole, il a plein de fantasmes. Mais je pense que ça représente aussi la solitude de cet enfant, en fait, et aussi la peur de grandir. la solitude, la peur de grandir et le désir.
Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Nous profitons du calme du jardin de la médiathèque et nous sommes en compagnie de Monsieur Isung U. Il est possible que vous préfériez écrire plutôt que de répondre aux questions. On vous remercie vraiment de votre disponibilité. Vous avez dit que le petit roman vous correspond, car sur un autre format, vous seriez à bout de souffle. On aimerait savoir ce qui vous donne le souffle nécessaire à l'écriture.
Je pense que la longueur d'un texte, en fait, c'est le sujet du texte qui le décide. Parce que, par exemple, je n'aime pas trop écrire des romans style reportage. Donc, la longueur trop importante ne m'en convient pas. Et en même temps, j'ai quand même souvent des messages à dire au lecteur. Donc, une petite nouvelle ne me convient pas non plus. Je pense que ça a un rapport avec ce que je suis, en fait, le souffle.
Mais il ne nous a pas dit ce qui lui donnait du souffle, à part le format.
C'est
l'inspiration.
Oui, l'inspiration, l'impulsion.
Mes inspirations sont multiples. C'est d'abord les lectures. C'est vraiment dans les lectures que je trouve des idées. Je pense que les livres sont comme un utérus qui contient encore plus de livres à naître.
Vous avez évoqué un carnet sur lequel vous notez ce qui vous inspire. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la dernière chose que vous avez notée ?
Yongam.
C'était tout à l'heure quand j'ai visité l'église de Lozère avec un guide. Le guide a dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de messe alors qu'on était dimanche parce qu'il était obligé, il était appelé à faire la messe dans une ville à côté. Donc l'image d'un prêtre qui tourne d'un village à un autre, ça m'a inspiré, donc je l'ai noté.
Il faut sûrement beaucoup de souffle pour courir après une vérité toujours fuyante. Quelle est cette vérité que vous poursuivez ?
C'est ce qui est au-delà de la réalité, parce qu'il y a toujours en moi, en fait, une certaine admiration, une attirance vers ce qui est au-delà de la réalité. Ça vient peut-être du fait que je suis pas. Il y a beaucoup de mécontentement, en fait, en moi-même, par rapport à la communauté dans laquelle je vis et par rapport à la société dans laquelle je vis. Donc, mais ce désir, cette soif un petit peu surhumaine, je pense que. Donc, on pourrait même parler de l'univers, de Dieu, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais je pense que c'est les conditions humaines font que les hommes sont destinés, sont condamnés à justement aller au-delà de ces conditions et compléter les conditions humaines.
Le couple, les jumeaux, l'incommunicabilité, ces thèmes sont omniprésents dans votre œuvre. Pourquoi ?
C'est sans doute un rapport avec le complexe que j'éprouve justement en matière de communicabilité. C'est probablement lié aussi à mon environnement, en fait, mon enfance, parce que ma famille était loin d'être parfaite et j'ai eu beaucoup de souffrances dans mon enfance à cause de justement des problèmes familiaux. Et j'ai toujours un peu de mal dans les relations humaines et je pense que c'est ça qui apparaît dans mon œuvre. Mais je pense que les questions les plus importantes de la vie humaine peuvent apparaître à travers une petite relation, une relation d'un couple, une relation avec les parents ou entre deux frères, en fait. On n'a pas besoin d'un grand cadre ou d'un grand sujet pour parler de ces choses-là. Je pense que les choses les plus importantes de la vie, finalement, peuvent tout à fait apparaître dans les petites relations comme ça.
Est-ce que vous écrivez pour créer un monde dans lequel il vous est possible de vivre ?
Tout à fait, parce que je pense que quand on n'a pas ces mécontentements et ces sentiments de manque dans la vie, on n'a pas le désir pour l'écriture. Je pense que c'est la condition même de la vie d'un romancier, en fait, parce qu'il crée un monde, effectivement, où on peut résoudre ces problèmes. J'ai vraiment éprouvé une sorte de guérison à travers l'écriture.
C'est un grand honneur pour nous d'avoir eu ce moment privilégié avec vous.
C'est le moment que nous attendions. Place aux lectures. Alors, juste quelques mots pour présenter Madame Oh Jung-hi, qui est une grande dame de la littérature coréenne, qui a déjà publié pas mal de livres en France aux éditions Philippe Piquet, au Seuil. Et là, il y a une nouveauté que je publie là ce mois-ci. Le livre est en librairie depuis le 11 septembre, qui s'appelle Le quartier chinois, qui regroupe trois longues nouvelles. Ce qu'on vous propose, pour vous donner un avant-goût, comme ça, écouter un petit peu la musicalité de la langue coréenne, Madame Oh va vous lire un petit extrait de la nouvelle Le quartier chinois en coréen. Et après, moi, je vous lirai la version française. On va lui laisser lire un extrait de la première nouvelle qui constitue ce recueil, Le quartier chinois. Pour vous situer, tout le recueil, c'est sur le fond de la guerre de Corée, mais en toile de fond. Et là, c'est une famille qui a été obligée de s'exiler, dans une famille coréenne avec les enfants, la mère, les grands-parents, dans un port qui s'appelle Incheon et qui est un quartier chinois, c'est un quartier défavorisé, et où il y a du trafic de charbon, etc. Ils vivent dans la poussière, dans la misère. J'ai oublié un petit détail, c'est que c'est une vision d'enfant qui nous est donnée, et notamment une vision de petite fille. Souvent, le narrateur, souvent la narratrice des nouvelles et de l'univers de Oh Jung-hi est représentée par le biais d'une enfant, d'une petite fille, ce qui permet évidemment de donner de la réalité une vision à la fois très réaliste et en même temps décalée, puisque l'enfant parle de choses qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne comprend pas, mais que nous, adultes, on comprend, et ça crée un décalage qui est vraiment très, très intéressant et très beau. Donc, Madame Oh Jung-hi.
새벽 구름이 걷히고 햇살이 조금씩 투명해지기 시작할 무렵에도 언덕 위의 집들은 굳게 문을 닫은 채 잠에서 깨어나지 않았다.
Bien que le soleil brillât dans une éclaircie du ciel matinal, les maisons sur la colline restaient fermées et endormies. La nébulosité bleuâtre de l'aube s'était retirée de la ville et se concentrait à présent au-dessus en prenant l'aspect de nuages de pluie. Une fois l'obscurité levée, l'odeur qui coulait en mince filet à travers les raies de la nuit commença à s'élever de partout comme un souffle longtemps retenu. J'identifiais enfin cette odeur. Elle effaça d'un coup le dépaysement et me rendit le quartier familier et concret. C'était un bonheur langoureux, la couleur du refuge que nous avions quitté la veille, un souvenir d'enfant. Alors que les pissenlits commençaient à fleurir, j'avais souffert de vertiges et de nausées, et assise sur une marche en pierre, je crachais une salive écumeuse, tandis que mon petit frère trottinait à quatre pattes dans la cour et mangeait de la terre. La grand-mère avait fait bouillir des algues tout au long du printemps. Quand j'en avais avalé un bol après l'avoir repoussé plusieurs fois, j'avais l'impression que le monde devenait jaune. Je tombais dans une incompréhensible et dolente confusion, une sorte de fatigue printanière, et je demandais si c'était le matin ou le soir. La grand-mère répondait en riant. « Ah, sale gamine, on dirait que les vers se remuent. » Je sombrais dans un trouble jaunâtre, comme si je déambulais dans un rêve oublié. Contemplant les maisons de la colline, je vis le volet d'une fenêtre s'ouvrir, et un jeune homme au visage pâle y parut. Donc là, je vais vous lire un extrait de la deuxième nouvelle qui s'appelle La cour de l'enfance, où on a la mise en scène d'une famille dont le père a été requis pour la guerre. Donc la mère se retrouve toute seule avec la grand-mère à élever les enfants. La mère qui est serveuse dans un bar, qui même fait parfois des heures supplémentaires. Disons qu'elle se prostitue, mais bon, c'est pas dit, mais on le devine. Un frère qui est très violent, qui bat sa sœur. Enfin, on est dans une atmosphère vraiment... Mais l'auteur ne tombe jamais dans le sordide ou le pathos. C'est vraiment... c'est la misère, mais avec une poésie, une beauté, vous allez voir. Dans cette nouvelle, tous les personnages, à un moment donné, évidemment, se retrouvent dans la cour, qui est une pièce essentielle. 100 jours après sa mort... Pune se maria et reçut un morceau de tissu noué par des fils de soie rouge et verte, renfermant la date de naissance du marié. Vers le coucher du soleil, on apporta des gâteaux de riz dans un récipient en terre qui fut posé sur une natte ornée de fleurs déployées sur le grand marou et la propriétaire, vêtue d'une tenue en soie toute neuve, reçut sur sa jupe déployée des étoffes de soie verte, rouge, jaune, blanche et noire. Le marié était le régisseur d'une métairie dont les récoltes étaient destinées aux cérémonies rituelles pour les morts du village de l'autre côté de la montagne. Décédé l'été précédent des suites d'une morsure de serpent. La rumeur disait que la famille de la mariée avait d'abord été réticente au sujet de ce prétendant dont le statut social manquait de prestige. Une tente fut dressée dans la cour et la propriétaire s'affairait à apporter de la boisson et des nouilles, tout en essuyant ses larmes avec la soutache de sa veste. Aucune de ses nombreuses filles n'était visible. Ce n'est pas un festin. La propriétaire avala la fin de sa phrase et les convives hochèrent la tête en arborant une expression de circonstance. Avec la vessie du cochon qu'on avait tué pour la cérémonie et qu'ils avaient rempli d'eau, les garçons jouèrent au ballon toute la journée sur un champ que la récolte des choux avait laissé nu. Quand tard dans la nuit, le feu de bois qu'on avait allumé dans la cour commença à faiblir, on prépara la chambre des mariés. La poupée représentant Pune et celle du marié, habillée en rouge et vert, fut recouchée côte à côte sous la couverture. Lorsque la chambre fut plongée dans l'obscurité, les gens qui autour du foyer se servaient à boire à tour de rôle se turent. Puis, comme d'un commun accord, ils se tournèrent vers le portail grand ouvert, éclairé par une lanterne rouge et bleue. Était-ce le vent qui vous glaçait le dos, ou la première gelée blanche? Toute la nuit, on entendit les sanglots étouffés de la propriétaire. Le charpentier borgne avait sombré dans une demi-inconscience dès le début de la soirée à cause de tout l'alcool qu'il avait bu. C'est étrange. Quand ils sont entrés dans la chambre des mariés, ils ont vu que les deux poupées de paille avaient les jambes entrelacées. Non, ce n'est pas possible. Mais si, la propriétaire disait qu'elle avait fait tout ça pour calmer l'esprit de sa fille qui est morte vierge, mais que quand même ça lui avait fait quelque chose et qu'elle avait séparé les deux poupées en les recouchant. Mais quand elle a soulevé la couverture, elle a vu que leurs jambes étaient à nouveau entrelacées. La bonne femme était toute chose, bouleversée, chuchota la grand-mère à ma maman le lendemain matin à table. Maintenant, je vais vous lire un troisième texte, extrait de la troisième nouvelle qui s'appelle « Le feu d'artifice ». Où là, c'est toute une famille qui se prépare à un événement de cérémonie, où il va y avoir un feu d'artifice, et elle nous présente les différents membres de la famille qui finalement se côtoient, mais finalement ne communiquent pas. Et là, dans cette nouvelle, la vision des choses est faite à travers le regard d'un petit garçon. Dans les deux précédentes, c'était la vision d'une petite fille. Et alors, dans cette nouvelle, il se trouve que dans une cour, toujours une cour, tout à l'heure j'ai employé le mot marou, alors c'est autre chose, c'est un élément de la maison coréenne qui est une sorte de terrasse où les gens vivent. Et là, dans cette cour, il y a un plaque minier. En fait, c'était encore une famille en exil, donc ce sont des pauvres, ils sont installés dans une cour, et en fait, il y a cet arbre avec des fruits, et les enfants, vous connaissez les enfants, évidemment, s'il y a des fruits sur un arbre, ils veulent les cueillir et les manger, mais la mère leur interdit, évidemment, parce que c'est une prérogative à laquelle ils n'ont pas droit. Et donc, beaucoup de choses se passent autour de cette cour. L'arbre occupe un coin de cette cour plutôt étriqué qui l'ombrage en permanence. Est-il malade? Est-ce la terre qui n'est pas fertile? Une pluie précédée de vent suffit à faire tomber ses kakis, alors qu'ils ne sont pas plus gros que des glands, parce que pas encore mûrs. Kwani a plusieurs fois proposé de couper cet arbre qui ne donne même pas de fruits mangeables, mais Inja l'en a dissuadé sous prétexte que sa verdure était agréable. Il y a 10 ans était apparu un homme dans la quarantaine. C'était l'été. Kwani, qui était parti à la recherche de marchandises, avant d'ouvrir sa boutique, son travail consistait à revendre aux commerçants des antiquités qu'il trouvait en furetant à travers la campagne, était de retour après un mois d'absence. D'un air hésitant, l'inconnu avait jeté un coup d'œil à l'intérieur par le portail ouvert, avant de demander à Inja si le maître des lieux était là. Quand Kwani était arrivé, il lui avait expliqué qu'il avait construit cette maison, y avait vécu, et que ses pas l'y avaient mené sans qu'il s'en rendît compte. Il lui avait demandé l'autorisation d'entrer dans la cour, d'où il avait minutieusement examiné le tout, le toit, la façade, jusqu'au petit défaut de la porte d'entrée, sans oublier Inja qui faisait les 100 pas avec le nourrisson sur le dos. Tout en grillant la cigarette que Kwani lui avait offerte, il avait raconté que, jeune officier, il avait été mis en cause dans un événement, ce qui lui avait valu d'être emprisonné. Il avait ajouté d'un ton détaché que sa jeunesse avait disparu en même temps que ses idéaux, et que quand il était sorti, semi-vieillard aux cheveux grisonnants, sa femme et son fils ne vivaient plus là, que la demeure semblait avoir changé de propriétaire à plusieurs reprises. Il avait les larmes aux yeux en regardant le plaquemunier qui avait grandi depuis qu'il l'avait planté à l'occasion de la naissance de son premier enfant, son fils qui était désormais l'unique lien du sang qui lui restait. Contrairement à Inja, Kwani se rappelait une vieille histoire de complot qui avait secoué tout le pays. Ah, c'était donc cet événement-là, je m'en souviens. Kwani, qui avait cru que tous ceux qui avaient été impliqués avaient été exécutés après une parodie de procès, essayait de faire les hypothèses sous le non-dit du récit de cet étranger, qui par ailleurs avait l'air franc. Avait-il sauvé sa vie en trahissant ses camarades? Ce souvenir revient toujours à la mémoire d'Inja quand elle regarde le plaquemunier. Comme si le fait d'être devant cet homme, de regarder l'arbre avec lui et d'éprouver une inexplicable mélancolie avait été prévu, préparé de longue date, selon une nécessité qu'eux-mêmes ne pouvaient concevoir, tels deux comédiens seuls sur une scène dans un faible halo de lumière. Quand elle imagine ce garçon devenu un jeune homme, vieillissant quelque part au même rythme que cet arbre, Inja ne peut pas se résoudre à le faire couper, bien qu'il ne serve à rien et qu'elle sache qu'il accentue l'obscurité humide qui règne dans la maison.
Écrivain coréen, ils sont où, dont est paru ce recueil de nouvelles. C'est pas son premier livre traduit en français, mais son premier recueil de nouvelles, qui est paru en octobre 2013. Pour entendre la musique de la langue et de la voix, il va vous lire un extrait de la première nouvelle qui a donné son titre au recueil Le Vieux Journal. C'est une histoire qui est, j'ai compris, en partie autobiographique, de deux frères. Il y en a un qui veut être écrivain et qui n'y arrive pas, et l'autre qui veut pas être écrivain et qui le devient. Et en fait, le frère lit toute l'œuvre de son autre frère en cachette. Dans la nouvelle, c'est un cousin, mais il est appelé sur son lit d'hôpital et le cousin va se confesser et l'écrivain va découvrir que finalement, il avait lu son journal intime, bien sûr. Il s'agit bien sûr d'un journal. Donc, il va vous lire un extrait et puis moi, je vous le lirai après en français. Et puis ensuite, je vous lirai deux autres extraits de nouvelles en vous les situant un petit peu dans la foulée. Je laisse la parole à Isson.
« 너무 오랜만이라 나는 처음에 그 노트를 알아보지 못했다. 뷰가 펼쳐보라는 손짓을 했다. 나는 첫 장을 넘겼다. 잊고 있었던
La respiration de Hugh est devenue saccadée. Je lui ai tendu le verre d'eau avec la pipette. Au moment où son regard a croisé le mien, il m'a dit quelque chose d'inaudible. Quoi ? Il a remué les lèvres. J'ai concentré toute mon attention pour essayer de comprendre, sans résultat. Il a repris son souffle, m'indiquant d'un geste le dessous du lit. J'ai tendu la main. Il y avait une boîte contenant des gobelets en papier, du papier toilette, des baguettes jetables, un couteau à fruits, des chaussettes, des serviettes et des sachets de thé. Il m'a encore fait un signe en m'invitant, m'a-t-il semblé, à explorer le contenu de la boîte. J'ai vérifié en sortant tout ce qu'elle contenait. Il y avait encore plusieurs choses, un stylo, des journaux, qui ne bougeaient pas. Du fond de la boîte, j'ai tiré une vieille enveloppe. Quand je la lui ai montrée, il a approuvé d'un signe de la tête. Dedans, il y avait un vieux cahier. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Il y avait tellement longtemps que je ne l'avais pas vu. Hugh m'a fait signe de l'ouvrir. Sur la première page, une écriture que j'avais oubliée mais qui m'était familière, que je retrouvais comme on retrouve les airs du passé sur un fossile. De vieilles traces de doigts maculaient mes premières phrases. Je me sentais déstabilisé, comme si l'on avait ressorti sous mes yeux un crime que j'aurais commis dans un passé ancien. Il l'avait donc gardé. Pourquoi ? Mon cœur saignait à l'idée que j'avais enfoui dans le cœur de Q ce que je voulais oublier. Que t'ai-je donc fait ? Ai-je marmonné dans un gémissement. Je n'avais rien fait. Pourtant, si quelqu'un avait souffert à cause de moi, était-ce légitime de dire que je n'avais rien fait ? Que dis-tu ? Cette fois-ci, sa prononciation n'était pas plus claire et j'ai compris ce qu'il voulait. Tu veux que je te le lise ? Ai-je demandé pour vérifier. Je regardais son visage. Il me fixait comme pour me prier de me hâter. Il avait été mon seul lecteur. Ces phrases n'avaient été destinées à être lues que de lui. J'ai ouvert le cahier, je me suis mis à lire les premiers paragraphes. Mes mains tremblaient, ma voix aussi. Je vais vous lire deux autres extraits. Souvent, on lit le début. Là, j'ai choisi la fin des nouvelles. Et la fin des nouvelles, elles ont un caractère un petit peu énigmatique, un peu kafkaïen, ces nouvelles. Souvent, elles se terminent sur ce qu'on appelle une fin ouverte. C'est-à-dire qu'ils laissent au lecteur le choix d'interpréter ce qu'il a raconté. Et finalement, le personnage principal n'a pas de réponse, évidemment, l'auteur ne la donne pas non plus. C'est au lecteur, évidemment, d'imaginer la suite, voire de la rêver. L'extrait que je vais vous lire, c'est une nouvelle qui s'intitule « Le lecteur ». Et en fait, c'est une histoire assez étrange d'un couple. Donc, le mari est au chômage, il ne trouve pas de travail. Et la femme a une idée géniale, c'est de créer un club de lecture à domicile. Et puis un jour, donc, elle a des lecteurs qui vont à des vieilles personnes, à des gens qui ont besoin qu'on fasse la lecture. Un jour, la personne qui devait y aller fait défaut. Et elle demande à son mari, puisque tu es au chômage et que tu n'as rien à faire, ben vas-y. Alors bon, la mort dans l'âme, il y va. Et puis il retombe sur un cas très étrange d'un bonhomme qui est sur un fauteuil roulant et qui ne dit rien et qui en plus l'écoute avec un casque sur les oreilles ou l'écoute de la musique. En fait, le lecteur se prend au jeu et finalement, cet homme qui n'a pas parlé depuis 30 ans va se mettre à parler. Voilà ce qui se passe un peu à la fin. C'est le mari qui s'adresse à sa femme. Ce que la garde malade m'avait rapporté, j'ai pu le vérifier de la bouche même de Hansong Cho, car il m'a tout raconté lui-même. Sur le moment, j'ai cru que sa fin était proche. Pourtant, un mois plus tard, il m'a fait appeler. L'idée de le revoir ne m'emballait pas vraiment. Je ne pouvais pourtant pas refuser. Je n'avais pas de raison de ne pas répondre à son invitation. Je me suis creusé la tête pour savoir ce que j'allais raconter. Je le connaissais si peu, seulement en surface, assez toutefois pour déterminer le choix des histoires possibles. J'en avais préparé quelques-unes. Le passe-muraille, l'homme qui a vendu son ombre, celui qui a marchandé une étoile. Ils avaient toujours aussi belle allure, les peupliers et les saules qui ceinturaient la demeure. Le jardin donnait toujours, comme naguère, l'impression d'être un peu négligé. Mais lui, tu vois, il n'était plus le même. Plus rien en lui qui donna l'impression de tout juste sortir de la tombe, plus rien de ce vide dans ses yeux. Quand je suis entré, j'ai trouvé un homme en bien meilleure santé. Si, si, crois-moi. Il m'a d'ailleurs confié qu'il pourrait bientôt se passer de son fauteuil roulant. Et puis il m'a dit tout de go, « Monsieur Kim, aujourd'hui, c'est moi qui vais parler et c'est vous qui allez écouter. » Et il a commencé son histoire, enchaînant les épisodes sans jamais faire de pause. Une longue histoire, macabre, stupéfiante. Il parlait avec tant de passion qu'il me semblait inconcevable qu'il ait pu vivre jusque-là sans s'en ouvrir aux autres. Quand il eut terminé son récit, j'ai pensé que ce qu'il avait tant attendu, ce n'était pas la voix de cet autre, mais plutôt la sienne. N'avait-il pas attendu le moment où il n'attendrait plus cet appel? N'avait-il pas attendu pour ne plus avoir à attendre? N'est-ce pas pour cela que jamais il enlevait ses écouteurs? Bien sûr, ces choses-là, il ne me les a pas dites. C'est moi qui les suppose, impossible de savoir exactement. Et oui, n'oublions pas que beaucoup d'histoires macabres, stupéfiantes, circulent souterraines dans la vie des gens et qu'elles restent insoupçonnées tant qu'elles ne nous ont pas été contées. Quelque temps après, ce monsieur est décédé. Ce qu'il m'avait raconté, c'était donc une sorte de confession. Bien sûr, je pourrais te donner tous les détails de sa longue et terrifiante histoire, bien qu'il se soit passé pas mal de temps depuis. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je me sens fatigué. J'ai trop parlé. J'ai besoin d'un peu de repos. Rentre bien. Un extrait d'une autre nouvelle qui est très très étrange. C'est l'histoire d'un couple qui s'est séparé dans des conditions un peu bizarres et dont la femme a obligé le mari à vendre leur appartement. Et pour X raisons, cet homme, comme l'appartement n'a toujours pas été vendu, il redemande à venir l'habiter. Et sa femme est censée être partie en exil, mais il n'a jamais la preuve. Il n'a jamais eu de preuve. Et évidemment, l'auteur instille un doute pour le lecteur. Le personnage principal réinvestir cet appartement pour écrire, c'est un écrivain, mais il n'a le droit que de rester que dans une seule pièce. Il n'a pas le droit d'ouvrir la porte de la chambre, etc. Or, quand il rentre dans l'appartement, à un moment donné, il y a une odeur insoutenable. Il essaie de nettoyer, d'enlever l'odeur. Il n'y arrive pas. On peut supposer des choses que je ne vous dis pas, mais que la lecture implique. Donc c'est la fin également de cette nouvelle. C'est intéressant parce que ça vous montre comment l'histoire se termine, où il va prendre un verre avec un bistrotier du quartier. 11h passées, je suis allé au bistrot. Le patron était en train de fermer. Je lui ai demandé pourquoi il fermait déjà. Il n'avait pas beaucoup de clients, m'a-t-il expliqué. On était lundi et en plus la température avait chuté. Fermé avant minuit, et j'ai objecté, c'était quand même exagéré. Le patron, bonne patte, se grattait la tête. Je lui ai dit que j'aimerais bien boire une pression. Il a rallumé la salle, j'ai commandé quelques saucisses pour accompagner la bière. Quand il m'a apporté le plat, puisqu'il n'y avait personne, je l'ai invité à se joindre à moi. Je me suis souvenu qu'il buvait seul le petit matin après la fermeture. Il est venu me rejoindre avec un boc de bière, puis il s'est relevé pour éteindre l'enseigne. « Alors, votre travail, ça marche ?» m'a-t-il demandé. « Comme si, comme ça, et je fais sans conviction. » L'homme, petit, rondouillé et chauve, a hoché la tête en disant quelque chose d'inaudible, peut-être, ah oui, mais je n'en suis pas sûr. « Pardon ?» ai-je demandé. Je reviens, a-t-il fait en secouant la main. Ah bon ? Ai-je grogné ? Il ne m'a pas relancé. S'il m'avait relancé, j'aurais secoué la main en disant « c'est rien ». Un an, j'ai passé. Il a essayé autre chose. On dirait qu'il va neiger. Oui, on dirait. Ai-je confirmé sans en être certain. Je me sentais mal à l'aise. J'avais pensé qu'on aurait pu dialoguer un moment face à face et c'est dans cette intention que je l'avais invité à venir boire avec moi. Nos tentatives tournaient court. J'aurais aimé parler, mais aucun sujet de conversation ne me venait à l'esprit. Agaçant. Mon interlocuteur semblait dans la même situation, faisant comme si je venais de me rappeler un engagement oublié. J'ai vidé mon verre et je me suis levé. Quand j'ai réglé, le bistrotier s'est excusé. J'agitais la main pour signifier qu'il n'avait pas de raison de s'excuser. Comme je suis le dernier client et que vous allez partir aussi, on peut partir ensemble. Vous habitez où ? Si j'ai posé cette question, c'est parce que j'étais vraiment gêné. Il m'a répondu, moi, je dors ici. Ici ? Ai-je insisté malgré moi. Il m'a regardé l'air de dire, pourquoi pas ? Puis il s'est mis à débarrasser la table. Et votre famille ? Ai-je demandé avant d'avoir réfléchi. J'aurais voulu reprendre ma question, mais le coup était parti. Il n'a pas compris ou fait semblant de ne pas comprendre. Je bois ici, alors je dors tout seul. Il a répété sa phrase. J'ai eu peur de l'entendre dire que sa femme et son fils étaient partis aux États-Unis sans lui demander son avis. « Ah bon, d'accord. » J'ai répété à mon tour ces mots dépourvus de sens. Comme une mélodie quelconque qu'on a entendue le matin et qui ne vous quitte pas de toute la journée, ces mots ont tourné dans ma tête jusqu'à ce que je sois rentré et me sois mis au lit. Le lendemain, je suis parti pour mon ancien appartement avec une couverture et un plaid. J'ai laissé la couverture dans la pièce principale. J'ai acheté 4 épais tapis de polystyrène dans une boutique. J'en ai laissé 2 dans la pièce principale, 2 autres dans la mienne. Je n'étais pas sûr qu'ils serviraient, mais on ne sait jamais. Je me suis étendu sur ceux que j'avais conservés. Chose incroyable, je ne sentais plus le froid du sol. J'ai passé la nuit là avec le plaid remonté jusque sous mon nez. Je reste plusieurs jours de suite, parfois sans sortir. Je passe tout mon temps dans cette petite chambre. Avant de sortir, je dresse une liste des choses nécessaires. J'ai rapporté de mon studio la cafetière électrique, la cuisinière à gaz portable, une casserole, des nouilles instantanées, des cuillères à thé, des gobelets, du sucre, des Kleenex. Je me fais des nouilles instantanées et du café. J'ai apporté aussi le grille-pain, un couteau, un lecteur de CD, un plateau, du pain de mie, des cintres, des sous-vêtements, des chaussettes et mon fauteuil. Je me fais griller du pain, j'écoute de la musique, lis ou somnole dans mon fauteuil. J'ai pris un abonnement à l'internet haut débit, un autre à un journal, puis j'ai transporté mon téléviseur. Je commande des livres sur internet, j'envoie des emails à ma femme, je lis mon journal, je regarde les matchs de foot à la télé. Ma femme ne répond jamais. Le journal m'apporte tous les bruits du monde, mais le monde ne change pas et les matchs sont ennuyeux. Bon, peu importe. Certains jours, je dors toute la journée. Je ne m'en plaindrai pas, jamais je n'entre dans la pièce principale. S'il me faut rendre ma table au printemps, ce ne sera pas bien gênant. Au printemps, le plat cuminier se parera de feuilles nouvelles. J'ai oublié depuis quand que c'est pour écrire que j'ai obtenu cette pièce. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas écrit. Seulement, il m'importe peu d'écrire ou pas. En tout cas, l'hiver n'est pas encore fini et j'ai déjà écrit une nouvelle. En voici le début. Il faudrait me la rendre au printemps, m'a précisé le patron du bistrot, en nettoyant la table en plastique qui reposait contre un mur, les pieds repliés, une de ces tables qu'on utilise à l'extérieur. Bien sûr, ai-je répondu. Merci beaucoup.
Si vous avez envie de connaître la suite, retrouvez toutes les infos sur placeauxnouvelles.fr. On remercie encore une fois Place aux Nouvelles pour ce moment d'exception.
Jacques Griffaut, Jong Eun-jin, Serge Safran, Cathy et Pascal de la médiathèque. La semaine prochaine, Tine et Plume vous proposeront de découvrir d'autres auteurs.
Nous retrouverons l'éditeur Serge Safran en compagnie d'Isabelle Minière pour une interview très sensible et d'autres belles rencontres, toutes nouvelles.
L'autre bout du monde s'est terminé, on se retrouve samedi à 15h. À très bientôt, Plume.
À samedi, Tine.